Chapitre 15. Le passé de Charles Castanier. Jeanne demeura sans connaissance. On sait que Martin Dumas, grand, long, osseux, était doué d'une force musculaire merveilleuse. Il souleva la jeune fille, la prit dans ses bras comme on fait un enfant. « Veuillez me montrer le chemin, monsieur, » dit-il au marquis, qui, avec tout le monde, s'était précipité au secours de la jeune fille. Précédé du marquis, Martin Dumas, avec son précieux fardeau, disparut par une porte menant aux appartements de la famille Castanier. Dans le petit salon, les magistrats, grandement impressionnés par cette dramatique scène, demeuraient anxieux. M. Morisson avait voulu suivre Martin Dumas en portant Jeanne, mais M. de Capestin le retint et le paria de rester encore là. Le vieillard y consentit, d'autant plus qu'il espérait amoindrir l'effet des paroles de Jeanne, les rétablir, leur donner un autre sens. Après un assez long moment de silence, il prit la parole. « Croyez bien, monsieur, dit-il, que malgré les apparences, malgré tout ce que vous venez d'entendre prononcé par cet inconscient enfant, et qui semble accabler Charles, ce brave garçon, est tout à fait incapable d'une mauvaise action. Moi, qui le connais depuis l'enfance, je vous affirme qu'il est incapable de pareille infamie. « Pardon, interrompt Martin Dumas, qui était revenu depuis quelques instants. « Pardon, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque histoire désagréable dans laquelle Charles Castanier, alors âgé de 19 ans, joua un certain rôle ?»« Quelle histoire ?» fit le caissier. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Permettez-moi de rafraîchir votre mémoire. » Je crois me rappeler que certains jours on s'aperçut de la disparition d'une rivière de diamants appartenant à Madame Castanier. Le banquier fit opérer des recherches. Monsieur Ramard doit s'en souvenir également. J'ai été chargé par lui de retrouver ce bijou de grande valeur. Et j'ai fini par le dénicher chez un receleur, au moment où il allait l'expédier pour le revendre en Angleterre. Le receleur déclara qu'il tenait ses diamants de M. Charles Castanier. Il les lui avait achetés en bonne forme et payés sur facture. C'est donc ce M. Charles que vous déclarez aujourd'hui incapable d'une mauvaise action qui avait commis celle-là. « Folie de jeunesse !» s'écria le caissier, accablé par cette déclaration. Péché pardonnable qui ne prouve pas qu'aujourd'hui, Charles, au contraire, amendé par cette leçon, ait pu se rendre compte coupable de ce double crime odieux. Je partage entièrement l'avis de M. Morisson, dit le marquis Primo di Carmine Santucci, entré peu après Martin Dumas. Le frère de ma chère fiancée, mon futur beau-frère doit être tenu absolument en dehors de cette atrocité. Et c'est ailleurs que chez lui, que dans cette maison, messieurs, que vous devez chercher le misérable, le coupable. C'est ce que nous allons faire, déclara Martin Dumas en s'inclinant légèrement devant le marquis. Puis il dit à voix basse quelques mots au chef de la sûreté qui acquiesça de la tête. « Monsieur di Carmine Santucci, dit alors Monsieur Ramard au marquis, pour le moment, votre présence ne nous est plus nécessaire. Vous pouvez retourner auprès de ces dames et leur apporter le précieux concours de vos consolations. »« Ah, cependant, messieurs, insista le marquis, au milieu de ce désarroi, je suis le seul homme qui, dans cette maison, puisse au nom de la famille répondre à vos questions. » Nous ferons appel à vos lumières quand le besoin s'en fera sentir, mais nous ne voulons pas vous imposer la tâche de suivre pas à pas notre enquête. Mais rien ne me coûtera, fatigue, peine, si je puis vous aider à découvrir le criminel. Nous n'en doutons pas, mais soyez persuadés que nous aurons recours à vous très souvent. Pour le moment, votre présence est auprès de celle qui pleure. Le marquis, alors, s'inclina et, quoiqu'à regret, dut se retirer. Monsieur Ramard conféra quelques instants en voix basse avec le juge d'instruction. Monsieur Morrison, dit alors Monsieur de Capestin, les déclarations de Mademoiselle Castanier nous forcent à revenir au coffre-fort du banquier. Le caissier demeurait effondré sur sa chaise, la tête dans la poitrine, les bras ballants, anéanti. Il leva péniblement la tête vers le juge d'instruction. « Peut-être, reprit celui-ci, allons-nous trouver ce qui établira l'innocence de M. Charles. Dans notre première perquisition, nous avons forcément négligé certains détails que nous devons reprendre maintenant. Veuillez m'écouter attentivement. Vous nous avez dit que M. Castanier, père, ne prenait jamais d'argent dans la caisse sans vous le faire aussitôt porter en compte, sans vous en le notifier. Oui, c'est exact. Bien, peut-être a-t-il enfin cédé aux supplications de son fils. Et précisément, pour éviter le malheur dont parlait Mademoiselle Jeanne, a-t-il versé à son fils la somme dont Charles avait besoin. Dans ce cas, M. Castanier, qui inscrivait méticuleusement le mouvement de la plus petite somme, a dû inscrire celle qu'il versa à son fils sur une fiche, sur un bloc-notes, sur un mémorandum quelconque, pour vous le notifier plus tard. C'est possible, cela se passait presque toujours ainsi. Parfait, donc nous pouvons retrouver la note. Et si nous la trouvons, innocence, M. Charles aurait fait un grand pas. Redescendons au bureau du banquier. Vous connaissez les papiers ordinaires du bureau de M. Castanier. Vous êtes au courant de ses habitudes. Vous allez chercher, vous trouverez, espérons-le, cette note, ce document sauveur. Le vieillard se leva avec peine et, machinalement, se mit en chemin. Dans le bureau de M. Castanier, où nous étions déjà venus au début, M. Morrison commença à fouiller dans les papiers qui se trouvaient sur le bureau du banquier, dans les livres, les casiers, dans le sous-main, jusque dans son buvard. Pendant ce temps, Martin Dumas avait pris la corbeille à papier dans ses jambes et puisait dedans, délicatement, examinant avec sa minutieuse attention, un à un, feuille par feuille, morceau par morceau, son contenu. Au bout d'un moment, le vieux caissier, étendant les bras d'un air navré, dit au magistrat, sur un ton absolument découragé, « Monsieur, vous ne trouvez rien ?»« C'est très malheureux, » déclara alors le juge d'instruction. Car l'accusation contre M. Charles Castanier demeure entière. Hélas, fit M. Morrison, mais messieurs, encore une fois, je vous affirme, je proteste de toute mon énergie. Et le malheureux vieillard, sans force, anéanti cette fois, se laissa choir sur une chaise, murmurant désespérément, « Oh, l'infortuné, le malheureux !» Cependant, Martin Dumas, abandonnant tout à coup ses recherches, vint au vieillard et lui dit, « Monsieur Morrison, pensez-vous que M. Castanier, pour des raisons que vous connaissez sans doute, que vous soupçonnez peut-être, ait pu se trouver hier dans la nécessité de défaire une des liasses des billets de mille de sa caisse pour en distraire quelques paquets. M. Castanier a-t-il donné directement de l'argent, payé lui-même quelque chose, versé une somme quelconque ? Oh non, monsieur, pas que je sache. Mais pouvez-vous cependant, bien que les bracelets en caoutchouc de ce genre se ressemblent, me dire si ceux qui enserrent les liasses que contenait le coffre-fort de monsieur Castanier sont comme celui-ci? Martin Dumas, mis sur le sous-main du banquier, devant monsieur Morrison, un bracelet de caoutchouc coupé. Le vieillard regarda le bout d'élastique rouge. « Oui, dit-il, c'est un des bracelets dont nous nous servons pour relier les grosses liasses. Autant que je puisse l'affirmer, il est identique à ceux qui enserraient les paquets disparus. »« Bien, déclara Martin Dumas avec assurance. Dans ce cas, je crois pouvoir affirmer que M. Castanier a eu besoin de toucher à des liasses de billets de banque. Et il en a certainement défait une. Et c'est en la défaisant nerveusement qu'il a cassé le bracelet de caoutchouc et qu'il l'a jeté ensuite, devenu inutilisable, dans le panier à papier. Cette déclaration, cette découverte, en somme, était de la plus grande importance. « Mais qui vous a dit, demanda M. de Capestin, que ce soit M. Castanier qui a brisé ce caoutchouc ?»« Ben, j'ai trouvé ce bracelet au fond de la corbeille, au milieu des papiers entre les fiches de quelques visiteurs. Donc, il a été jeté là dans l'après-midi. Et comme il y avait par-dessus des fiches de visiteurs et des papiers d'agence commerciale, des feuilles de bourse qui ne se déchirent pas, qu'après la bourse, j'en tire cette déduction que M. Castanier a reçu du monde et a travaillé encore après avoir jeté ce bracelet au rebut. Une autre personne, pour l'y mettre, aurait dû passer la main sous la table, fouiller dans la corbeille, l'y cacher. C'était une peine inutile, une vaine précaution. C'est donc M. Castanier lui-même qui, dans un mouvement nerveux, car le caoutchouc est neuf et solide, a brisé ce bracelet, qu'il a jeté machinalement, et a continué tout naturellement à jeter dessus les papiers, les fiches, les feuilles d'agence, les télégrammes de bourse dont il ne voulait pas encombrer son bureau. « Et quelle conclusion tirez-vous de cela ?» demanda M. de Capestin. J'en tire cette conclusion qu'à un moment donné, M. Castanier a touché à ses liasses de billets, ce qu'il n'avait, comme le croyait M. Morrison, nullement besoin de faire, puisque tous les paiements s'opéraient par la caisse. C'était donc, en hypothèse, une affaire personnelle, un versement exceptionnel qui ne devait pas passer par la banque. C'était une affaire imprévue, spéciale, unique, dirais-je, familiale. M. Castanier a remis sur le champ quelques billets de 1 000 à quelqu'un, qui n'attendait certainement pas puisque ce paiement n'était pas prévu. À quelqu'un qu'il connaissait assez pour ne pas lui demander de reçu. À quelqu'un qu'il ne pouvait oublier, puisqu'il n'a pas pris la peine d'inscrire son nom sur une fiche. Un mémorandum quelconque pour le transmettre ensuite à M. Morrison. J'en tire cette conclusion que M. Castanier a pris dans son coffre des billets de banque et que la seule personne à qui il pouvait les donner dans des conditions tout à fait spéciales, inusitées, anormales chez lui, était M. Charles, son fils. Ses raisonnements étaient spécieux. La conclusion effrayante. Mais alors, s'écria M. Morrison, ce serait la preuve de l'innocence de Charles. Oui, absolument, si M. Charles nous prouve que son père lui a réellement remis cet argent. Le juge d'instruction demanda au caissier, savez-vous si réellement M. Charles avait, cet an dernier, besoin d'argent? Oui, monsieur, répondit avec confiance. Maintenant, le vieillard. Oui, Charles avait perdu d'assez fortes sommes que son père refusait jusqu'ici absolument de payer. Monsieur de Castanier aurait donc changé d'avis. Mais plus que probable, c'est certain. Oui, ça va être cela. Madame Castanier et ces demoiselles ont dû plaider pour Monsieur Charles et faire enfin fléchir le père. Monsieur Charles est venu hier et a eu gain de cause. Monsieur Castanier a cédé. Et voilà, messieurs, oui, voilà ce qui a dû certainement se passer. Non, c'est cela. Le vieillard respirait mieux à présent, comme délivré du grand poids qui écrasait sa poitrine. D'ailleurs, fit observer le juge d'instruction, il nous sera très facile d'établir ce point, vérifier ce fait. Comment cela? Quand nous interrogerons M. Charles. Interroger Charles? S'écria M. Morisson en tressaillant. Vous voulez interroger Charles? Mais c'est de toute nécessité. Je m'étonne même de ne pas l'avoir encore aperçu dans cette maison, auprès de sa mère, de Mademoiselle Jeanne, devant le cadavre de son malheureux père, de sa sœur infortunée. Sa présence ici dissiperait tout soupçon. Mais le malheureux ne peut être là, s'exclama le caissier. Mais pourquoi cela? Parce qu'hier soir, il est parti. Parti, s'écria-t-on, parti. Oui, parti pour une destination inconnue. Pour toujours, peut-être. Mais comment savez-vous cela? Demanda vivement M. de Capestin. Blanche, ma fille, Blanche, me l'a dit dans sa lettre d'adieu. Votre fille, mais comment? Pour quelle raison votre fille pouvait-elle connaître ce départ de M. Charles? Hélas, messieurs, depuis longtemps, Blanche, ma fille, aimait Charles Castanier. Et elle est partie avec lui.